על בית דין בישמעאל הוא כשר וישר. זה רצית טוטל מסית איתו.
אני
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. C'est toujours avec un grand réel plaisir que nous partageons ces 57 minutes interactives avec vous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé le week-end dernier la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Dans son message à la nation, le chef de l'État a fixé l'opinion sur les contenus de ses assises. Il a entre autres évoqué la possibilité dès à présent d'engager une réflexion sur un système électoral avec les modalités de vote peu coûteuse, comme c'est le cas dans d'autres pays. Entre-temps, l'UDPS et d'autres partis de l'opposition disent ne pas comprendre pourquoi la question de l'alternance n'est pas été évoquée dans ces discours. Que faut-il faire pour harmoniser à quelques jours de la tenue du dialogue le point de vue des uns et des autres? Pour intervenir en direct, composez les 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de commenter avec vos messages sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiokapi.net. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Minute Ndou assure la mise en onde de ce programme réalisé par Julie César Bongonda qui est au standard et Pierrot et la Mégie. Une émission qui vous est coordonnée et présentée par J.R. Nguembo sous la supervision éditoriale de Martin Sebouzangue. Bienvenue à tous.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Alors nous avons en ligne Jonas Tsombela qui est le président de la nouvelle société civile du Congo. Monsieur Jonas, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, et alors, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Voilà, vous avez suivi comme tous les peuples congolais l'adresse du chef de l'État par rapport à la convocation du dialogue. Comment avez-vous commenté ces dialogues, pardon, ces discours?
Oui, nous, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous avons d'abord salué ce dialogue dit inclusif, mais en même temps, nous demeurons extrêmement préoccupés et même inquiets sur le contenu très clair de l'agenda du dialogue inclusif, sur le rôle du facilitateur international qui ne peut intervenir qu'au moment où les difficultés majeures vont surgir, alors qu'apparemment le pays semble être en pleine difficulté et même dans l'impasse. La nouvelle société civile s'interroge sur la nature même de la réflexion qu'il faut mener sur le système électoral peu écouté, sans déboucher par l'énervement de la Constitution, du mépris de la mère de la Constitution de la République. Et nous craignons que les décisions courageuses qui seront prises par cette instance soient de nature à toucher à l'esprit et à la mère de la Constitution. Bref, les discussions ou bien les décisions courageuses qui seront prises risquent de violer la loi fondamentale. Et ça, nous craignons, parce que cette instance n'a pas qualité ni mandat de toucher à la Constitution. C'est une instance de réflexion qui n'est pas au-dessus de la Constitution de la République. Donc, nous sommes inquiets sur l'avenir même du processus électoral dans notre pays au regard de ce message qui n'a pas assez rassuré les uns et les autres.
Alors, ce n'est pas là un procès d'intention?
Ce n'est pas un procès d'intention. Quand on dit prendre des mesures courageuses, pouvez-vous nous donner le contenu de ces mesures? Et quand on sait que les uns et les autres se soupçonnent, nous pensons peut-être que le chef de l'État allait profiter de cette occasion pour vraiment émettre un discours très fort, fixant l'opinion, par exemple, sur son mandat, sur ce qu'il pense de la Constitution, sur ces débats-là qui se passent. Et ça calmerait les esprits et ça casserait même toutes les spéculations qui sont en train de passer. Or, cela, il n'est pas revenu là-dessus. C'est encore encouragé à alimenter les milliers de spéculateurs, ce qui n'est pas bon pour l'avenir de notre pays.
Alors, ceux qui soutiennent qu'il s'agit là simplement de propositions, parce que lui aussi, il est citoyen, il a le droit de réfléchir ou de faire des propositions.
Oui, il a ce droit. Nous, ça, à ce stade, nous pouvons le concéder. Mais maintenant, voilà ce qui arrive. Il est, vous savez, les parties en conflit, il y a toujours deux parties qui sont en conflit. L'une des parties ne peut pas prendre l'initiative de convoquer l'autre parce qu'il y a la méfiance. Maintenant, le chef de l'État avec sa famille politique, ils sont partie prenante du conflit. Donc, pour que ce conflit puisse trouver solution, ce n'est pas à eux de convoquer, c'est à trouver un facilitateur neutre qui peut le faciliter le contact et les agendas des uns des autres les harmoniser. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, ça continue même à amplifier le conflit. Vous voyez, c'est ça qui nous inquiète. C'est pourquoi nous disons, mais là, il y a des partis en présence, l'opposition et la majorité, qui sont en conflit. L'opposition ne peut pas convoquer la majorité. Je pense aussi que la majorité ne peut pas convoquer l'opposition. Donc, il n'y a qu'un facilitateur qui peut nous assister à trouver un compromis qui peut faire avancer les discussions qui pourraient être engagées.
Alors, mis à part de deux co-organisateurs, comme on l'a appelé le co-président, ou les co-modérateurs, il y a les co-facilitateurs. Comment avez-vous compris cela?
Oui, mais le co-facilitateur, lorsque vous voyez, on nous parle de co-facilitateur qui ne pourrait intervenir qu'en cas de difficultés majeures. Ça veut dire que son rôle est réduit au moment où les difficultés majeures vont surgir et qu'avant que ces difficultés surgissent, il y a le co-facilitateur ou bien le co-président de cette institution, du dialogue, qui continue de travailler, qui n'est pas dans l'entendement des uns des autres. Ça devient presque un
oui, flou. Oui, mais c'est tombé là. Ça relève de problème de la souveraineté. C'est vrai, les difficultés majeures ne pourraient intervenir que lorsqu'il y aura des accords ou carrément les deux parties, comme vous l'avez dit, la majorité et l'opposition n'arriveraient pas à se mettre d'accord. C'est de cette difficulté majeure dont parle, si en tout cas mon interprétation est correcte, le discours.
Oui, mais je crois que on ne devait pas commencer par penser aux difficultés majeures. Il fallait d'abord qu'il y ait un facilitateur qui le mette ensemble. Mais quand vous parlez de la souveraineté, vous pensez à quoi? La souveraineté de notre pays, là. Nous pensons à la souveraineté seulement quand nous arrivons vers des questions qui sont liées aux élections. Mais même les mêmes élections en 2006 ont été financées nécessairement dans une grande partie par la communauté internationale, le palais de la justice de notre pays, le budget est très près de nous, l'environnement dans la ville de Kinshasa. Vous savez, l'assainissement, ça a posé des problèmes et ça a été soutenu par qui? C'est pas la communauté internationale. Donc le Congo ne peut pas s'isoler en se camouflant derrière la souveraineté pour cacher le vrai problème. Nous sommes membres de la planète et nous devons avoir le courage d'aller vers nos compatriotes de la planète, de nous assister à faire avancer des choses. Le Bénin a eu la conférence nationale souveraine, c'était une seule fois, mais chez nous, nous avons eu combien de rencontres qui n'ont pas de solution. Donc, il est grand temps que l'acteur politique congolais prenne en charge cette volonté politique qui doit beaucoup plus affirmer pour concrétiser ce rêve qui est encore un rêve aujourd'hui qui doit devenir réalité pour les Congolais qui sont.
Voilà, si vous voulez participer à ces débats, composez les 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Voilà, nous ouvrons c'est le standard avec vous, Arsène. Vous êtes à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, la question que nous avons lancée pour les débats de ce jour, que faut-il faire pour harmoniser à quelques jours de la tenue du dialogue les points de vue des uns et des autres?
Merci beaucoup pour la parole, JR. Je me demande s'il faut rire, ou bien s'il faut pleurer, ou bien pour il faut se fâcher. Mais nous avons un problème au pays. Nous sommes dans l'impasse. Le chef de l'État, qui est censé mettre la paix, qui est censé mettre une discipline dans la nation, ne peut pas se regarder lui seul. Il doit voir la vie de la nation. Il a prononcé un discours que tout le monde attendait, voir l'émergence de la paix, voir l'émergence de la cohabitation. Mais malheureusement, le discours, c'est un discours creux, qui démontre une mauvaise volonté politique. Je ne peux pas me situer dans un cas ou dans l'autre, mais la situation est tellement préoccupante qu'il faut voir toute la globalité de la situation. La constitution de notre République, c'est notre Bible. il ne faut pas tenter à retrancher ou ajouter quelque chose. Dès que vous tentez à faire cette histoire-là, aux yeux de Congolais, vous êtes déjà un traître. Ça, il faut dire le mot. Parce que le chef de l'État ne peut pas parler, ne peut pas faire un discours comme s'il était prisonnier d'un groupe de politique. Il doit être au milieu du village en tant que chef de l'État. La Constitution a été modifiée en 2011, juste pour lui donner une occasion. Parce que c'était dans la précipitation, notamment. En 2006, on a tenté quelque chose qui est constitutionnel, le débat contradictoire. Ça ne s'est pas passé. Il a eu ce qu'il voulait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Parce que la Constitution dit qu'il doit partir. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il veut faire du Congo?
Oui, Arsène, est-ce que vous avez suivi religieusement les discours du chef de l'État?
Oui, je les suis.
Alors, comment avez-vous interprété ces discours?
Moi, je trouve que c'était un discours qui essaie un peu de distraire tout le monde.
Non, nous devons être concrets et aussi prouver scientifiquement ce dont nous parlons. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous voulez attendre de ces discours que vous n'avez pas entendu?
La première chose que j'attendais, que le chef de l'État puisse dire, écoutez, nous sommes dans un impasse. Tout le monde peut venir poser le problème d'un côté ou d'un autre et ensuite trouver des solutions. Il ne pouvait pas directement donner des lignes de conduite qui va jusque à fournir ou à essayer un peu de tromper la Constitution.
Mais Arsène, revenons un peu dans l'évolution de ce processus électoral. N'est-ce pas que le chef d'État avait convoqué une consultation populaire, une consultation politique, avec des acteurs politiques et aussi des acteurs de la société civile? Et en tout cas, la quasi-totalité lui a répondu favorable. Et qui est allé à la consultation, ils ont fait des propositions, et les discours, c'est le résultat de cette consultation.
Merci beaucoup. En tout cas, hier, il faut voir le processus électoral. Parlons-en. Depuis combien de temps on devait se préparer pour que nous puissions avoir des élections? Vous voulez avoir un enfant? D'abord c'est la grossesse, d'abord c'est le mariage, après le mariage c'est la grossesse, après la grossesse c'est la maternité. Vous devez tout préparer, vous devez tout planifier. Ce n'est pas le jour où il y a la naissance, vous allez dire, écoutez, je n'ai rien docteur, écoutez, voilà. Non. Il faut tout programmer. On n'a pas programmé. Aujourd'hui nous sommes dans l'impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter une fois pour toutes. S'arrêter et appeler ceux qui peuvent venir. On trouve une solution. Voyez l'argent qu'on a préparé pour les élections. Où se trouve cet argent? Pour dire qu'écoutez, on n'a plus d'argent. Le ministre, je dis bien le ministre, le président de la République est chef du gouvernement aussi. Il dirige le conseil des fois, le conseil des ministres. Comment un ministre qui tient l'économie peut dire, écoutez, nous sortons 20 millions de dollars par mois pour les élections et en fin de compte, on ne trouve rien. Donc, il a été compris sur le département.
Voilà. Arsène, je crois, pour votre information, je crois que les constituants de 2006 a défini les attributions des uns et des autres. Le Premier ministre, il est, lui, le chef du gouvernement. Et avec la présence de la République comme institution autre, je crois qu'il y a l'indépendance de fonctionnement des institutions et il y a des domaines de collaboration. Raison pour laquelle vous remarquerez à chaque arrêté ou à chaque ordonnance signée par le chef de l'État, et dans la plupart des cas, ce sont des ordonnances qui ont été signées entre les présidents et le gouvernement. Voilà, qui est représenté par le Premier ministre. Ça, c'est pour votre gouvernement. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé de Kikwita. Christophe, vous êtes à Goma. Bonjour, Christophe.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également tous les Congolais. Vraiment, je suis très content de me mettre en contact avec le peuple congolais par rapport à la thématique du jour. Nous avons tous suivi les discours du chef de l'État par rapport à la convocation du dialogue et tout. Bon. Nous nous sommes dit, lorsque l'IDP a accepté de prendre part à ce dialogue-là, bien avant, puisqu'il n'y a pas longtemps, je venais de régner, nous nous sommes dit que c'était un pas vers le progrès. Depuis toujours, il y a des interventions que je fais dans cette émission, j'ai dit il y a 2 mois passés que la majorité parlementaire et les chefs de l'État, y compris ses conseillers, était en train de mettre les ingrédients pour que la crise vienne dans les jours à venir dans notre pays. Voilà une fois de plus ce que le chef de l'État venait de présenter comme discours. Il a défi tout le monde. Nous nous sommes dit, bon, allons au dialogue pour partager. Le problème, c'est lui d'abord le chef de l'État. Si on parle des élections présidentielles et législatives, tout ça, c'est par rapport à lui. Dans son discours, il n'a rien parlé de lui-même pour dire qu'il peut postuler ou pas, alors qu'il y a déjà des intentions. Tout ce que l'opposition prêtait des intentions sont devenues des réalités aujourd'hui. La modification de la Constitution, par exemple, des mandats de scrutin et tout, les mots de scrutin, ce sont des articles qu'on ne peut jamais, modifier. Nous avons été sincèrement déçus.
Alors Christophe, une seule question. Oui. C'est vrai que les avis sont partagés par rapport à ces discours. L'UDPS a communiqué hier pour dire que voilà, n'a pas trouvé son compte dans ces discours. Alors que faut-il faire aujourd'hui pour harmoniser à quelques jours de la tenue du dialogue, parce que tout le monde est d'avis que les dialogues c'est la voie royale pour sortir ce pays de la crise. Alors pour harmoniser le point de vue des uns et des autres, que faut-il faire, Christophe?
Monsieur le journaliste, quelques jours c'est combien de temps? Voyez-vous que ça va prendre 2 semaines? Le dialogue va prendre, donc le dialogue va commencer dans au-delà d'un mois, je vous dis ça. Puisqu'il faut, ils veulent bien que ce soit inclusif. Bon, le discours écarte déjà la majorité de l'opposition, même la société civile, vous aviez suivi l'Église catholique, a dit pendant les délais constitutionnels, alors que les manœuvres que la majorité est en train de faire, même le discours lui-même est noir sur blanc. Mais les prémices, la conclusion est visible. Il ne faut pas être, je ne sais pas, voilà. Savoir où est-ce qu'un pour tirer les conclusions qu'on nous présente. Voilà. Moi, je suis en train de regretter sincèrement que ce genre de discours puisse être présenté à la nation. Et puis, le souverain dont on parle, le premier souverain, c'est nous. On nous appelle souverain primaire.
Voilà, c'est pourquoi nous échangeons. Voilà, merci beaucoup Christophe, c'est pourquoi nous échangeons de manière citoyenne, pour nous permettre aussi de contribuer à la construction de la nation. Merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. Oui, nous recevons également dans ce studio notre deuxième invité, à part donc c'est Tombela, président de la nouvelle société civile du Congo qui est en ligne. Il y a Monsieur Moke Sanda, vice-président national à l'UDECO, à l'Union pour le développement du Congo, qui nous a rejoint d'ailleurs dans ce studio. Bonjour Monsieur Moke.
Bonjour Jean.
Voilà, quel est selon par rapport à vous autres, par rapport à votre parti, la valeur ajoutée de tous les discours qui ont été prononcés par le chef de l'État dans tout au long de ce processus électoral?
Bon, j'ai entendu diverses opinions au sujet de ce discours, mais pour nous, le discours du chef de l'État est un discours responsable. Le chef de l'État a agi en sa qualité de garant de la nation. Donc, le chef de l'État n'a pas fait de ce discours, n'est-ce pas, dans le sens de mettre son point de vue personnel. Mais en fait, ce discours est le résultat des consultations qu'il a faites, n'est-ce pas, auprès de la classe politique congolaise, ainsi que des forces vives de la nation. Donc, c'est à la suite de ces consultations que le chef de l'État a fait cette adresse. D'ailleurs, tout le monde l'attendait, tout le monde savait, même les médias l'ont dit, que le chef de l'État allait prendre la parole dans les jours qui suivaient, justement, pour rendre compte à la nation des consultations qu'il a faites. En fait, ce que d'aucuns pensent comme étant un ordre du jour inventé par le chef de l'État, je ne pense pas. C'est un ordre du jour qui vient justement des préoccupations de toutes les consultations qu'il a faites. Vous devez savoir que le chef de l'État n'est pas n'importe quel citoyen. il est le premier citoyen. Il dispose des moyens colossaux d'État en matière de renseignements, n'est-ce pas, d'informations et consorts. Donc, quand il parle, c'est après avoir scruté, n'est-ce pas, l'ensemble de la nation congolaise, qu'il a tous ces éléments-là, et qu'il les met maintenant à la disposition de ceux qui vont venir au dialogue, pour leur permettre déjà de réfléchir.
Oui, voilà. Mais au sortir des consultations, en tout cas, si ma mémoire est très bonne,
oui.
Qu'il s'agisse de prélats catholiques, oui. Ou encore la société civile, et pour ne pas citer quelques-uns de membres, des acteurs politiques, en tout cas, tout le monde était d'avis que dialogue, oui, mais que cela puisse s'organiser dans l'esprit de respect du délai constitutionnel. Et quand on parle de délai constitutionnel, ce n'est pas un secret, c'est que les gens pensent déjà à l'alternance. Alors aujourd'hui, l'UDPS et d'autres partis de l'opposition, faisant des réflexions, en fait, analysant le discours du chef de l'État, disent ne pas comprendre pourquoi la question de l'alternance n'ait pas été évoquée dans ce discours.
Bon, je ne sais pas ce que les gens appellent alternance, mais l'alternance veut dire tout simplement, par exemple sur le plan politique, que lorsque les gouvernants actuels, n'est-ce pas, perdent à l'issue des élections, n'est-ce pas, tel ou tel poste, ceux qui les remplacent, n'est-ce pas, c'est ça qu'on appelle justement l'alternance, c'est un peu ça. Donc, tant qu'il n'y a pas encore d'élection, on ne peut pas commencer à parler de l'alternance.
Justement, le constituant de 2006 a déjà évoqué la question de l'alternance.
Oui, mais l'alternance dont il est question, c'est le problème, justement, des élections, parce que l'alternance se fait par voie électorale, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous savons, je crois, lors de l'émission de la fois passée, j'ai dû justement le relever, la Constitution a fixé des durées d'exercice de mandat politique, tant pour les institutions nationales que pour les institutions provinciales. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Et cette constitution-là, ben, elle produit des effets ergo omnes, c'est-à-dire ergo de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour un individu. D'ailleurs, le chef de l'État, mais son mandat n'a pas encore pris fin. Les députés nationaux...
Mais tout le monde sait que son mandat prendra fin à partir du mois de novembre de l'année prochaine.
Oui, bien sûr, ça va prendre fin.
Mais qu'ils disent quand même, les gens attendaient qu'ils disent que voilà, à partir du mois de novembre,
oui.
Mon mandat prend fin.
Oui.
Maintenant, les restes de temps, je vous laisse organiser par exemple la transition. Parce que l'UDPS dit, c'est vrai, à la fin, même si on n'organise pas d'élection, mais la transition sans le chef de l'État actuel.
Bon, ça c'est, je crois que ça c'est une façon intriquée.
Parce qu'il aura déjà bénéficié de le privilège du constituant de 2006 jusqu'en 20 novembre 2016. Mais c'est fini parce que je crois qu'il a renouvelé une fois.
Mais justement, ces gens-là, n'est-ce pas, disent être les garants, non, les gens respectueux de la Constitution, mais la Constitution prévoit tout ça. La Constitution dit expressis verbis ceci, n'est-ce pas? Lorsque pour une cause ou pour une autre, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à organiser les élections, par exemple, les institutions qui sont en place, le devoir,
c'est jusqu'à
ce que nous devons respecter.
Voilà.
Mais cela ne veut pas, oui, je suis en train de préciser, ça ne veut pas dire que chez nous, nous avons déjà l'intention de le faire, non. Ici, nous devons nous mettre face à face, n'est-ce pas, avec
pour dialoguer.
Pour discuter, pour
dialoguer. Voilà. Merci beaucoup. Ah. On va, président Soumbela, Jonas, vous êtes avec nous en ligne.
Je vous en prie, je suis là.
Alors, c'est vrai, la lecture qu'a fait aujourd'hui la nouvelle société civile du Congo, disons par rapport à ses discours, nous dégageons parfois, nous dégageons déjà une déception. Parce que la société civile attendait plus que ça.
Je me demande maintenant si réellement les forces vives et les gens qui ont rencontré le chef de l'État ont réellement transmis au chef de l'État la vraie volonté de la population ou le vrai aspiration de la population congolaise. Je commence par me poser la question. Je me pose encore la question, est-ce que le prélat catholique qui a été reçu par le chef de l'État se retrouve-t-il dans ce message? Parce qu'il est parmi les gens qui ont été reçus par le chef de l'État. Se retrouve-t-il dans ce message? Nous demandons maintenant, la conscience de la République est vraiment visée. Pourquoi? Parce que déjà en 2011, ça a été le cas, mais même cette année, l'affaire des commissaires spéciaux, mais ça énerve terriblement la Constitution. la République, fermer le tribunal de la Constitution de la République, nous pensions que le chef de l'État devait aller au-delà des considérations de sa famille politique, comme celle de l'opposition, pour être un peu au-dessus et dégager une réelle volonté politique, réellement, de, que la population, un signal fort, que la population arrive à comprendre que la Constitution sera respectée et que les élections seront organisées dans les délais, mais il y a des problèmes qui se posent. Comment faire pour que dans les délais, les élections s'organisent? Ça n'a pas été relevé. Donc, ça a encore alimenté le champ des spéculateurs. Donc, nous ne pensons pas que la solution est pour demain, au regard de ce qui est en train de se flotter actuellement. Par contre, nous proposons d'ailleurs, juste valeur, nous disons non, le chef de l'État, au-delà de ce qu'il a dit comme message, il faudra qu'on trouve un facilitateur, et nous pensons que l'ONU peut nous assister dans cette démarche, de nous trouver un facilitateur pour mettre ensemble les points de vue qui sont en train de diverger. Vous savez, au bout de la divergence, c'est quoi? C'est la violence. C'est que nous ne voulons pas pour notre pays. Notre pays a déjà plus de 6 millions de morts. Nous n'avons pas encore besoin d'autres morts. Donc, il faut qu'il y ait un facilitateur qui doit harmoniser d'abord le point de vue. Ce qui est, c'est comme si cela ne suffisait pas. L'ordonnance venait de tomber. Il y a une commission préparatoire qui sert. Quel est le critère de ces gens qui vont travailler là-bas? Quel est le mandat de ceux-là? Si déjà une commission qui sera mise en place est à décrier, sans même qu'on sache ceux qui sont des amateurs, il y a un problème. Il faut qu'on regarde le problème là réellement en face, au lieu de faire les deux tours, parce qu'il y a l'impression qu'il y a un des tours qu'on est en train de faire. Le vrai problème qui se pose, et pour la majorité, et pour l'opposition, c'est leur survie politique. Mais ils n'arrivent pas à dire aux Congolais cette réalité-là. Alors, ils sont pris en otage à cause de leur volonté personnelle, égoïste de survie politique. Et c'est ça. Il faut qu'ils disent à la population cela. Parce qu'ils tiennent notre demain, c'est quoi? Notre lendemain, c'est quoi? Que ce soit dans l'opposition comme dans la majorité. Et là, le peuple est en otage. Il n'y a rien du développement qui va sortir même de ce dialogue.
Merci beaucoup, monsieur Jonas Chombela, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci et à très bientôt, monsieur Jonas.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, alors on va prendre Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Maître Sonville, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je suis avec vous, M. Sierre. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et quel est votre avis?
Par rapport à la thématique, ma lecture est celle-ci. Moi, j'estime que ce message ici, c'est un rendez-vous manqué pour le chef de l'État. Donc, c'est un message qui a mis encore de l'huile au feu, jusqu'à peut-être à faire brûler la case. Pourquoi je dis ça, M. Sierre? Vous avez suivi vous-même les réactions de part et d'autre. Et ce message a provoqué même, a irrité même l'UDPS. Sur qui peut-être le pouvoir comptait, ou de faire se sortir de sa torpeur, de même M. Gilles. Moi, j'estime que toutes les propositions que le chef de l'État a émises, d'abord, pour faire le choix par rapport peut-être à certains facilitateurs, et ça ne s'en revient pas de ses attributions. Lui, il doit consulter peut-être le représentant de l'ONU, c'est au représentant de l'ONU par rapport à l'esprit même de l'allégation de Brixetelli, qui devait se choisir un facilitateur. Et au-delà de ça, il y a une zone d'ombre dans ce message-là, puisque nous semblons que nous pouvons reculer en arrière, en changeant, même, en voulant même changer les modes de scrutin. Pour revenir peut-être au second degré pour élire le président.
Alors, dans ces discours, dans ces discours, quelles sont les mesures qui n'ont pas rencontré votre assentiment, vous personnellement?
D'abord, par rapport à la tentative là de changer le mode d'esprit. Ça, c'est un. Et deux, il ne revient pas au chef de l'État de convoquer. De convoquer ce dialogue, puisque le chef de l'État lui-même, il est problème dans cette histoire. Il est trempé dans cette histoire par rapport aux accords d'Addis Abeba. Monsieur Perrault, monsieur Gilles, je vous dirais ceci. Le chef de l'État a dit qu'il convoque le dialogue pour la pérennisation de la paix, sur toute l'étendue de la République. Mais hier, il y a eu une situation macabre qui s'est passée au niveau de la commune de Tamaloto, là où le stade de Mazembe a été barricadé avec des soldats lourdement armés pour empêcher aux fanatiques de Mazembe d'accéder au stade, là où leur président, le Moïse Kassim Diop, devait leur adresser un message avant le voyage de Mazembe au niveau du Japon. Est-ce que je suis que c'est dans ces conditions qu'on peut pérenniser, consolider cette paix? Moi, je ne signe pas. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet du jour. Je réitère encore mon attachement à la déclaration de la CEDAW, puisque nous sommes en train de vivre les histoires qui ont été dénoncées par la CEDAW. ce n'est pas de cette manière que nous devons aller au dialogue. Et si aujourd'hui, si vous suivez, aujourd'hui, si le dialogue, si le président peut-être, la majorité présidentielle s'entêtait pour aller à ce dialogue-là, la majorité est la seule à ce dialogue, et quelle sera maintenant l'ampleur?
Voilà, je pense. Voilà, maître, merci. Merci beaucoup. Je crois que il y a une bonne partie aussi de l'opposition qui a accepté d'aller, nous avons vu au niveau des consultations nationales. Alors donc, je n'imagine pas, bon, merci M. Moquet, vous êtes de l'Hélico, particulier à Batabukalay, vous êtes membre de la majorité, mais si vous vous retrouvez au dialogue seul, sans l'opposition, sans la société civile, sans d'autres forces vives de la nation?
Non, je ne pense pas que...
Parce que déjà, il y a l'écueil par rapport à ce discours, ça ne raconte pas la fatigue de tout le monde.
Justement, je pense que il y a aucune mesure, n'est-ce pas, de l'opinion qui a été faite par un institut, n'est-ce pas, pour dire que cette position, n'est-ce pas, est partagée par 80% de la population congolaise. Ce sont des opinions qui peuvent venir peut-être des îlots, n'est-ce pas, des citoyens par-ci par-là. Donc c'est pour vous dire que la nation congolaise est constituée de plus de 65 millions d'habitants. Donc, les opinions qu'on est en train d'exprimer à Kinshasa, à Lubumbashi, peut-être ne sont pas les opinions qui sont exprimées à Ikela, à Ingembe, n'est-ce pas, partout. Donc, on doit tenir compte aussi, justement, de cette population. Vous voyez, c'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que le chef de l'État, il est chef de l'État. Il dispose des moyens, n'est-ce pas, d'information, des moyens de renseignement. Il sait quelle est l'opinion réelle, n'est-ce pas, qui s'exprime. Aussi, la plupart du temps, ce sont les intellectuels, n'est-ce pas, hein, qui arrivent à donner leur point de vue. C'est tout à fait normal. Dans la stratification sociale, on a toujours une catégorie des gens qui sont en fait le moteur, n'est-ce pas, de la vie politique dans une nation. Ça, on le sait. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, au regard, n'est-ce pas, de la divergence de vue sur le dialogue en tant que voie royale, pour résoudre ou pour ramener la paix sociale, la démocratie et la cohésion au sein de la nation congolaise, je crois que nous pouvons vous dire que la majorité présidentielle n'ira pas seule. Il y a des gens qui seront là. Ce que nous voulons, c'est que ce dialogue soit vraiment inclusif. Hein? Parce qu'on doit aussi tenir compte de la voix des minorités, même si ces opinions sont minoritaires, mais on doit les inclure. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde vienne au dialogue, et c'est à l'intérieur du dialogue que nous allons débattre.
Alors, une certaine opinion évoquant donc quelques erreurs qu'ils ont pu déceler dans ces discours, disons, évoque notamment la composition, en fait, des membres du comité préparatoire. Oui. Ils seront, en tout cas, recrutés d'après quels critères? Quels sont les critériums? Hein, voilà, donc, c'est tout ça, les gens mettent dans les comptes déjà d'une démarche qui est biaisée au départ.
Bon, je pense que, vous savez, ça on l'a vécu depuis longtemps, hein, depuis les années 90, n'est-ce pas, avec la Conférence nationale souveraine. J'ai vu, tantôt c'était la Commission constitutionnelle, tantôt c'était ceci, et tout ça c'est parce que ça a pris beaucoup de temps.
Et de pas continuer avec ces manœuvres
politiques. Et nous ne continuons pas.
Et ça ne profite pas à la population.
Justement, ça ne profite pas à la population. C'est la raison pour laquelle je pense
que... C'est vraiment un mauvais exemple.
Non.
C'est ce qui a retardé aussi le processus de démocratie.
Justement, je vais chuter en disant que nous ne voulons plus de ce genre d'avis, de cela. Parce qu'il y a des gens parfois qui se renseignent, qui savent peut-être qu'ils ne seront pas là, hein, et que ceux qui seront là, peut-être, parce que les gens croient que l'objectif du dialogue, c'est le glissement et puis le partage des postes. Ils se disent déjà, si on n'est pas là dès le départ, peut-être que nous là. C'est un peu ça, c'est ça le mobile qui pousse les gens à parler de ce.
Est-ce que vous ne pensez pas comme les autres qu'aujourd'hui, on parlerait de l'alternance, tout le monde parlerait de l'alternance, dès lors que le chef de l'État accepterait, par exemple, que même s'il y aura transition, mais que ce soit pas avec lui?
Bon, mais les gens doivent. Le chef de l'État a été élu, n'est-ce pas, au suffrage universel direct. Tout le monde le reconnaît comme étant le chef de l'État. Et il est régi par la Constitution.
Et donc, c'est qui sera fin mandat,
oui, le 20 novembre. Qui sera fin mandat, fin novembre. Ça, c'est le principe arrêté par la Constitution. Mmh. Et le chef de l'État, vous l'avez dit, qu'il va respecter la Constitution. Je ne vois pas pourquoi les gens commencent à spéculer. S'il arrivait, je le dis bien,
s'il arrivait que...
Si les élections ne sont pas organisées.
Ne sont pas
mais
organisées.
Il n'y a pas d'argent.
Non.
Mais seront pas organisées.
Oui, oui, oui. Par exemple, ne seraient pas organisées. La Constitution règle déjà cette question. Mais c'est ça. On ne peut pas avoir un vide juridique. On ne peut pas dire non. Le chef de l'État, on le met à l'écart, on désigne quelqu'un. Mais ce monsieur-là qui va venir, c'est dans le cadre de quelle disposition constitutionnelle?
Pourquoi seulement maintenant qu'il n'y a pas d'argent? C'est ça la petite question que tout le monde se pose.
Bon, je pense que nous avions, lors de l'émission passée, n'est-ce pas, parlé du couac, n'est-ce pas, dans le parcours du cycle électoral. Nous avions parlé de problèmes de calendrier électoral global. Hein? Même la communauté, tout le monde avait demandé. On a sorti ce calendrier. Après, non, c'est un calendrier vraiment constipé. Hein? Tout ça. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Et ensuite, vous aviez, vous le savez, que le gouvernement, en fait, lorsqu'on prévoit un budget, c'est pas que l'argent est déjà là. Hein? C'est sur le papier.
C'est des prévisions.
Non, c'est sur des prévisions.
Oui.
Bon, il peut arriver que, en cours d'exercice, qu'on connaisse des problèmes.
Il y a des aléas.
Il y a des aléas. Par exemple, la fois passée, nous avions parlé, j'ai pris un exemple, n'est-ce pas, des recettes pétrolières. Je vous avais dit que le gouvernement, en fait, collectait mensuellement 35 millions de dollars pour les recettes pétrolières. Mais celles-ci sont passées de 35 millions le mois à 9 millions le mois. Vous voyez tout ce que ça fait. Alors, à ce moment-là, c'est un problème de priorité. Je crois que le gouvernement a des priorités. Les grandes priorités sont la santé, l'éducation, n'est-ce pas, les
agents. En 2011, les priorités, c'était les élections. 2016,
oui.
On va écouter quand même quelques auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Charles à Congolo, Honoré à Dungu. Charles, vous êtes avec nous. Bonjour, Charles.
Bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Charles. Quel est votre avis?
Je vous ai fait pour harmoniser à toujours. La préoccupation qui concerne cette émission d'aujourd'hui.
Oui.
Quand on nous parle aujourd'hui de ce processus ou du dialogue, c'est un problème que beaucoup de Congolais ont décidé depuis avant. Je pense que bientôt ici, c'était la semaine passée que la CENCO venait de le dire, qu'il y aura toujours des problèmes sur le processus de quoi de dialogue. C'est que le président vient de l'annoncer et nous savons qu'il y avait l'IDP qui était d'accord de ce processus, mais arrivé du coup hier, on a entendu encore que l'IDP ne participera pas encore à ce dialogue, pourvu qu'il y a encore de mes ententes sur quoi, sur base de ce que le président venait de dire pour le problème de l'alternance, surtout l'alternance. C'est un problème que M. Félix a dit que le président est resté à fond pour ce qui concerne le délai de son mandat. Et jusque-là, ils ne se comprennent pas. C'est pourquoi...
Charles, s'il vous plaît. Je crois que la Constitution, elle est claire sur les mandats déjà de l'État. Faudrait-il encore qu'il le dise lui-même? Je pense que là, quand même, si vous me permettez, en tout cas avec vous, que j'intervienne, voilà, parce que le mandat est clair, on connaît le mandat, et la Constitution de 2006 a déjà défini le mandat du chef de l'État. La durée, donc.
En 2006, après 2006,
le président
l'avait annoncé que nous irons tout juste aux élections. C'est lui-même qui avait dit, et personne ne l'avait poussé de le dire, après le mandat de 2006.
Tout
lui-même l'avait annoncé. Et d'autres pays l'annoncent bien avant que, après ce mandat, je serai obligé de quitter le fauteuil. C'est facile de le dire, pour que le Congolais sache bien que non, nous irons aux élections. L'alternance n'est pas dit. Bon, pourquoi cet état de choses? Donc, la Constitution le dit, mais les élections qui ont été annoncées ici pour le problème de quoi, des élections municipales,
si je comprends bien, Charles.
Nous sommes toujours comme ça, dans le calme. C'est facile d'être comme ça, et après on nous dit que non, il n'y a pas d'argent, comme on a dit, pour le problème de quoi, des élections de gouverneurs.
Alors, vous ne trouvez pas une valeur ajoutée, seulement vous constatez des contradictions en contradiction dans tous les discours ou les adresses qui ont été annoncées pendant ce processus électoral par le chef de l'État. Et là, finalement, vous ne comprenez plus rien. Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé le Congolo. Honoré, vous êtes à Dungu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Honoré. Quel est votre avis? Que faut-il faire pour harmoniser à ces jours les points de vue des uns et des autres, à quelques jours donc de la tenue de dialogue politique?
Merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi le chef de l'État et tous les discours, mais ça me laisse un peu perplexe dans le sens où on savait depuis longtemps qu'il y aurait les élections en 2016. D'ailleurs, depuis 2015 et finir en 2016. Pourquoi n'a-t-on pas préparé ces élections? Pourquoi on ne les a pas budgétisées depuis longtemps? Et que maintenant, la dernière minute, on commence à dire qu'il n'y a pas d'argent pour financer les élections. C'est là où je trouve que la majorité qui a géré le pays, le président avec sa suite, donc, ils ont carrément échoué dans le sens où ils n'ont pas prévu. On ne doit pas se prétendre ou se prévaloir de sa propre turpitude. Eux-mêmes ont géré le pays. Quelle est la part de la population dans tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive maintenant dans l'impasse où on se trouve? La part de la population. Ce sont eux plutôt les dirigeants qui nous ont amenés dans cette situation. On va se frapper la poitrine, non, le dialogue s'impose, et ainsi de suite. Mais eux-mêmes nous ont amenés dans cette situation, quelle est la part de la population? On ne se retrouve pas. Donc, qu'on cesse de nous distraire, et on trouve dans tous ces discours-là des anguilles sur roche, dans le sens où on cherche à griffer tout simplement, comme c'est le vocabulaire actuel,
oui.
On cherche tout simplement à griffer actuellement. Alors, nous, ce que nous proposons, on manque de l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque pour la République, qu'on mette l'argent et qu'on aille. Bon, et par occasion, j'invite d'ailleurs tous les opposants, que ce soit G7 et ainsi de suite, à aller dans ce dialogue au lieu de se soustraire, au lieu de faire la politique de la chaise vide, même si on est dans, on se trouve dans l'espace, qu'ils aillent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire.
Oui, ben il y a des craintes aussi qui sont exprimées, Honoré, aller là-bas quand tout est déjà bouclé, parce qu'on dit le comité préparatoire sera composé de qui? Si la majeure partie c'est de la majorité, l'opposition ne va pas accepter, et si dans la majorité c'est aussi l'opposition qui composera, donc la majorité n'acceptera pas, donc on risque de faire du sous-place. Raison pour laquelle nous avons posé la question, alors que faire pour harmoniser le point de vue avant la tenue de ce dialogue, parce que cela sera tenu dans quelques jours.
Oui, effectivement, il fallait qu'on soit en mesure de convaincre les opposants qui ne veulent pas participer à ce dialogue d'y aller, et comme ça, tout le monde se retrouve. On décrit très bien les tâches, les différentes tâches de tout et chacun.
Merci beaucoup, Honoré.
Ils disent que, ils vont dire carrément que tout ce que vous faites, ou plutôt ce
voilà.
que vous voulez.
Il faut combattre à l'interne. Merci beaucoup, Honoré. On va prendre Félicien Kindoulou qui était à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à nos invités. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Catholique.
Quel est votre avis?
Bien, je vous remercie pour la parole. Moi, je pense que plutôt le discours du président de la République est un discours très responsable et un discours très honnête, dans la mesure où c'est une phase facile pour le président de la République de reconnaître qu'il n'y a pas eu de bonnes élections en 2006 et en 2011, alors que depuis longtemps, quand tout le monde disait qu'il n'y a pas eu de bonnes élections, et les gens ont dit que c'était de bonnes élections. La convocation du dialogue, c'est vraiment un acte de courage de la part du président de la République, parce que ils ont compris, il a fait beaucoup de tergiversations, et en fin de compte, c'est les intérêts supérieurs de la nation qui devaient primer sur les intérêts personnels. Et c'est à travers le président de la République, c'est toute la classe politique dans son ensemble, que ce soit ceux de l'opposition et ceux de la majorité qui ont géré avec lui, qui devraient faire un aveu d'échec de la gestion de la Respublica pendant la Troisième République. Et cela devait amener cette classe politique à s'en remettre au peuple congolais, et qui devait convoquer une commission vérité et réconciliation, où on devrait, si encore dans ce pays, des sages et des notoriétés qui devaient arbitrer pour savoir qui a fait quoi, qui a fait le mal à la République et qu'est-ce qu'on devait faire après cela. On ne pouvait pas venir encore, le président de la République ne pouvait pas.
Félicien, c'est dans cet esprit-là qu'il a été organisé. Donc les concertations nationales, mais c'est dommage parce qu'il n'y avait pas, pour certains acteurs politiques, c'était pas un forum inclusif. Les autres, en tout cas les autres légumes, ne se sont pas présentés dans ces forums, et c'est ce qui a créé encore des problèmes. Alors la crainte aujourd'hui, c'est que certaines personnes redoutent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux-là qui avaient refusé les concertations nationales continuent encore à refuser les dialogues et ils resteront toujours à marge et ça continuera toujours à créer une crise.
Vous savez, Gilles, que ce dialogue devrait avoir lieu au lendemain des élections de 2011, des élections très chaotiques. Et à ce moment, nous avons appelé la classe politique à se mettre autour d'une table et à former un gouvernement d'union nationale, étant donné qu'on ne pouvait pas savoir qui est réellement a gagné les élections, et pour préparer de bonnes élections en 2016. À ce moment, ils auraient géré ensemble et ils pouvaient pas y avoir des problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous pouvions avoir des élections apaisées, des élections crédibles et transparentes. Mais on ne l'a pas voulu à ce moment-là et on est parti dans des concertations qui n'étaient qu'une perte de temps et d'argent. Et aujourd'hui, ils reviennent au bon sens être là en train de donner des injonctions, échanger d'autres voies pour trouver des voies, des moyens pour organiser des élections à moindre coût. Et là, ça sera touché à la Constitution. Mais ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays, vous le savez, j'ai. Il suffit de faire 6 mois dans une fonction politique et vous devenez milliardaire, même si avant, vous n'aviez même pas un vélo. Alors moi, je pense que nous devions plutôt faire une commission vérité et réconciliation qui devait nous aider.
Voilà, merci beaucoup, Félicien. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Bonjour, j'ai salué aussi tous les auditeurs qui nous suivent à l'instant.
Vous avez la parole, Maurice, après avoir écouté vos prédécesseurs.
J'ai dit que si. Je dois d'abord en fait informer à votre invité que lorsqu'il parle d'un institut de sondage, je dois vraiment lui informer que cette émission en cours est un véritable outil de sondage. Il peut, à travers en fait, les intervenants, les auditeurs, évaluer en fait l'adhésion de la population dans son ensemble au discours en fait raté de Monsieur Kabila. Alors, j'ai dit ceci. Par le principe, le dialogue est une ouverture en démocratie. C'est vraiment un poumon par lequel respire la démocratie. Et en non politique, je pense que on ne peut pas vraiment s'opposer au dialogue. Mais les problèmes qui se posent, c'est au niveau de l'approche, au niveau même d'abord de l'entendement de ces dialogues. Alors, même une partie de l'opposition, notamment le regroupement de... qui s'oppose au dialogue, en réalité, ne s'oppose pas au dialogue. Même lorsqu'il parle des tripartites, donc il soutient quelque part la tenue du dialogue. Mais les problèmes se situent au niveau de l'approche. C'est en fait des intentions malveillantes, des intentions qui ont été déroulées par M. Kabila à travers son discours, ces intentions qui consistent en fait à s'approprier, à contrôler, comme nous l'avions en fait observé lors des concertations nationales où il avait montré la même stratégie jusqu'à faire à désigner Minaku et Kengo. Et en fait, de tromper par une diversion comme celle qui est développée actuellement, de mettre sa soumission comme co-facilitateur. Et ce sont les mêmes rôles qui sont construits à travers son dialogue par rapport à la présence en fait de ce facilitateur, celui-ci interviendrait en cas des difficultés, lorsque les difficultés majeures seront observées. Alors, on voit déjà en fait l'intention de ce monsieur en fait de pouvoir contrôler et d'escroquer pour la énième fois la population comme c'était le cas avec les concertations nationales. Alors, pourquoi on doit, lorsque réellement il y a eu une correspondance, une lettre qu'il a destinée à M. Ban Ki-moon pour que celui-ci procède à la désignation d'un médiateur. Or, lorsque on va désigner un facilitateur, c'est lui qui doit faire ce travail. Lui, pourquoi? C'est la raison pour laquelle je suis en train de voir que c'était vraiment une diversion. C'était pas vraiment une bonne information qu'on doit vraiment vérifier si réellement il avait demandé à ce que le secrétaire général de l'ONU puisse procéder à la désignation.
Mais alors, quelle est la source de votre information? Parce que c'est vrai, une lettre qui a été adressée, bon, parce que nous ne l'avons pas diffusée sur Okapi.
Mais c'est ce que j'ai dit, si réellement il avait écrit. Et qu'il avait sollicité.
Mais d'où vous tirez mais vous personnellement,
vous avez cette précipitation. Et pourtant, le rôle que devait jouer le facilitateur, c'est celui, en fait, de consulter, de contacter les différentes parties prenantes à ces dialogues, de recueillir leurs avis, suggestions par rapport à la tenue du dialogue. C'est alors que ce facilitateur ou ce médiateur va procéder à la fixation de date, de manière concertée avec le parti en présence, qui va procéder plutôt à la convocation de dialogue. C'est fixer la date, l'ordre du jour.
Oui, Maurice, en quoi vos propos, c'est que le dialogue le plus opportun.
Bon, parce le dialogue est toujours opportun pour la simple raison.
Mais les temps est passé, parce que finalement.
On peut aller aux élections dans les conditions actuelles.
Alors, maintenant que le dialogue devient encore opportun, que faut-il faire maintenant pour harmoniser? Parce que l'UDPS monte au créneau pour dire que voilà, ce n'est pas au chef de l'État de convoquer ce dialogue. Il faudrait un modérateur neutre, notamment avec les facilitateurs dont on a parlé. Et il faudrait pas que tout soit dit sauf l'alternance que tout le monde attend. Bon, voilà tous ces problèmes-là. Donc, on vous dit, déjà, il y a des conditions.
Ce n'est pas, je ne suis même pas d'abord au niveau de la convocation, ni au niveau de M. Kabila de se prononcer par rapport
à
ses intentions de briguer un troisième mandat, parce que constitutionnellement, c'est vraiment exclu.
Oui.
Mais le problème de l'UDPS, c'est que le facilitateur qui doit être désigné doit faire un travail que lui est en train, en fait, de pouvoir déjà torpiller.
Voilà, merci
beaucoup. Le facilitateur vient pour faire ce travail. Pourquoi lui doit se précipiter s'il n'a pas des
espoirs? Voilà, le facilitateur, c'est très important.
On va discréditer ces dialogues.
Merci beaucoup. Alors, on va avant de passer à l'honorable Paca, on revient vous moquer, Santa. Voilà, il y a tous ces problèmes, toutes ces préoccupations des uns et des autres. Alors, comment vous réagissez?
Bon, je voudrais réagir au propos de l'auditeur qui vient de parler. Suivant mon intervention concerne justement le problème de facilitateur. Il nous a dit tout à l'heure que le chef de l'État aurait écrit, n'est-ce pas, au secrétaire général de l'ONU pour demander un facilitateur. Je crois que à ce que nous sachions, pareille correspondance n'a pas été pareille correspondance n'a pas été publiée, n'est-ce pas, dans les médias. En fait, ce sont des recoupements des médias, n'est-ce pas, qui poussent certaines personnes à confirmer qu'il y a eu une lettre du chef de l'État adressée au secrétaire général de l'ONU.
Mais quand déjà plusieurs médias avaient abordé ça.
Mais justement, les médias ont abordé, mais personne ne connaît, n'est-ce pas, le contenu, hein, la teneur de ce message que le ministre des Affaires étrangères aurait présenté auprès du secrétaire général de l'ONU. Personne ne le connaît. Mais le chef de l'État l'a dit dans son discours. Donc,
le message n'était pas connu.
Non, le chef de l'État avait, ça c'est tout le monde le sait, avait envoyé le ministre des Affaires étrangères auprès du secrétaire général de l'ONU.
C'est à propos de quoi?
Personne ne connaît le contenu de ce message. Il y a plusieurs problèmes. C'est pas seulement le problème de dialogue. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le dialogue,
la communauté
n'est pas respectée. Comme au niveau de la majorité, vous avez quand même eu vent de ces messages que Raymond Tshibanda a amené, a apporté auprès de ce secrétaire général.
Non, je ne peux pas vous confirmer que nous avons eu, n'est-ce pas, connaissance de la teneur de ce message. Ce que nous savons, c'est que le chef de l'État, même pour le dialogue, a consulté la communauté internationale à travers les chancelleries, n'est-ce pas, qui sont sur place. Il les avait reçus aussi. Il leur
a annoncé simplement mais pour bientôt.
Justement, et ceux-là, certainement, ils ne sont pas allés comme ça sans parler. Ils ont parlé. Peut-être qu'ils lui ont prodigué aussi certains conseils, n'est-ce pas? C'est tous ces conseils-là ramassés, n'est-ce pas, qui ont permis au chef de l'État de rendre compte à la nation, n'est-ce pas, de ce qu'il a eu comme message, comme conseil de tout le monde. Et le chef de l'État a parlé maintenant officiellement, n'est-ce pas, de la présence, n'est-ce pas, d'un facilitateur lors du de concertation. Et il a bien dit que celui-là viendra pour des bons offices.
Au cas où on ne l'explique pas, il écrit pour demander un facilitateur, oui, dans son adresse, oui. Il désigne déjà un co-facilitateur. Bon, finalement, ça peut être quand même
un peu. Non, est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il désignait un co-facilitateur. Moi, je n'ai pas entendu ça.
Voilà.
Dans son discours. Non, excusez-moi.
C'est la co-facilitation internationale. On va y revenir juste après les flashs d'information. Honorable Pacard, vous êtes député provincial de Bandundu-Ville. Nous vous gardons en ligne. Corneille Moulumba également, vous êtes à Kinshasa. Nous vous retrouvons d'un moment à l'autre. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Voilà, on va prendre plutôt Corneille Moulumba qui est à Kinshasa. Corneille, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Corneille.
Bien. Je voudrais juste dire que, en fait, nous devons faire très attention. Compte tenu de la situation de notre pays aujourd'hui, le dialogue est le moindre mal. Nous devons, par rapport à la situation, nous retrouver sérieusement et parler entre nous pour trouver comment nous sortir de là. Par rapport au discours et à l'ordonnance du président de la République, je pense qu'il y a deux choses principalement. L'une bonne, l'autre, je pourrais dire mauvaise. La bonne est que il sera mis sur place une commission préparatoire. Il est donc essentiel que chaque composante de l'aide ses meilleurs négociateurs, ses meilleurs experts à cette commission préparatoire pour faire le travail qui doit être fait. La mauvaise, c'est que l'ordonnance parle, dit que les résultats, les résolutions vont être transmises au chef de l'État qui va les remettre aux institutions. De quelles institutions s'agit-il? L'actuelle Assemblée nationale, le Sénat, la CENI ou quoi? Or, justement, au dialogue, on doit parler de tout cela. Donc, on va devoir trancher là-dessus. On va devoir se mettre d'accord là-dessus. Parce qu'il ne peut pas être question qu'on aille aux élections avec des gouverneurs de provinces dirigés par des commissaires spéciaux, avec une CENI contrôlée à nos yeux par le pouvoir, avec des chefs de secteur, des bourgmestres désignés par le pouvoir. Donc, tout ça, nous devons en parler. Alors, c'est donc là qu'on va se décider l'essentiel. En ce qui concerne le médiateur extérieur, oui, l'exigence de l'IDPS, c'est normal, on comprend. Mais ceci étant, retenons que le jour où ça va barrer dans ce pays, tout le monde va partir d'abord et nous allons rester, nous allons nous entretuer. Donc, nous avons le devoir de nous mettre d'accord entre nous, Congolais, trouver un compromis minimum entre nous, Congolais, pour nous en sortir, parce que c'est nous qui allons payer, dans tous les sens du mot, physiquement ou financièrement ou quoi que vous voulez. Donc, je pense qu'il est important de distinguer l'essentiel de l'accessoire, distinguer ce qui est important pour notre pays et ce qui l'est beaucoup moins. Sachons faire la part des choses, c'est très très important. Ne nous attachons pas aux futilités. On fait beaucoup allusion aux concertations nationales. Je voudrais dire ceci. L'accord cadre date du mois de février 2013. Les résolutions de Nations Unies datent de mars 2013. L'ordonnance convoquant les concertations date du mois de juillet 2013. Entre avril, mai, juin, qu'avons-nous fait pour faire des propositions concrètes, pour nous réunir en conclave de l'opposition, par exemple, pour voter avec une présence, pour notre cahier de charges? Si nous n'avons pas fait cela, la faute à qui? Ne cherchons pas toujours à mettre la faute dans le cadre des autres, mais concrètement, en quoi nous avons assumé nos responsabilités? parce que je peux dire que de la croix de concertation, nous avons ensuite aussi, 3 ou 4 mois après, entre-temps, nous n'avons rien fait. Pourquoi? Parce que, d'un côté, là, une partie de l'opposition était préoccupée par le dossier du porte-parole de l'opposition. Elle était prête à prendre l'impérium. Mais peut-être que si nous étions allés au dialogue, nous aurions obtenu plus par le dialogue que ce que nous avons obtenu par l'impérium. Vous comprenez? Donc, ça vient distinguer les sentiers de l'accessoire. Où sont les intérêts de la nation? C'est là ma préoccupation principale. Donc, qu'on ne soit pas distrait. Tirons de ce bien ce qui est positif. Disons qu'on ne peut pas négocier, décider ensemble par consensus et puis prendre les résolutions, remettre aux gens de l'État qui va faire ce qu'il veut. Non, à ce moment-là, ça ne va pas. Mais si nous à la commission préparatoire, on peut aussi décider de ce que nous devons faire. Si nous ne sommes pas d'accord, Mais au moins, nous aurions été constructifs en faisant des propositions. Ils peuvent nous aider à en sortir. C'est le chef de l'État a dit de son point de vue. Tout le monde n'est pas lié par cela. À la commission préparatoire, nous pouvons décider de pouvoir améliorer les choses ou les orienter autrement. Simplement, ne soyons pas complaisants dans la désignation de ceux qui vont nous représenter à la commission préparatoire. Faisons le meilleur d'entre nous au niveau de l'opposition, faisons ça autant au niveau de la majorité et pour la société civile. Un point clair. Je pense que l'opposition doit se mettre ensemble et aller à ce combat de dialogue et se battre sérieusement. Il mieux de se battre au dialogue que de se battre par les armes ou dans la rue. Dans la rue, c'est pour consacrer l'échec. La guerre, c'est pour consacrer l'échec. Tant qu'il y a une chance de dialoguer, allons dialoguer. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup, Monsieur Corneille, d'avoir appelé. On va prendre Franquin qui est à Bukavu. Franquin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous hier. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole.
Je préviens d'abord les propositions de mes prédécesseurs et moi je pense que le dialogue jusqu'à présent reste justifié sur les concepts politico-électoraux. Mais le grand problème se pose au niveau de l'organisation. Qui doit organiser les élections et comment nous devons l'organiser? Justement, si on répond à la question qui doit l'organiser, moi je pense que ce n'est pas vraiment à l'allure où l'ordonnance a été publiée, parce que si on s'attient à l'ordonnance présidentielle, moi je pense que ça ne vaut plus la peine de convoquer les dialogues. Parce que l'ordonnance donne l'impression qu'on organise les dialogues sous forme de fonctionnement normal des institutions. Si on voulait que l'opposition et la majorité soient d'un côté et d'une manière de l'autre côté et l'opposition de l'autre côté, je pense qu'il fallait justement se limiter au niveau institutionnel à organiser des dialogues. Mais parce qu'il y a crise aujourd'hui, il y a crise de confiance entre les acteurs. Même si on mettait la majorité et l'opposition dans la co-modération, il n'y aura aucun résultat. Moi, je pense que le schéma proposé par l'IDP, c'est le schéma qui peut être adopté, et donc adopter et choisir un représentant de la communauté internationale qui doit jouer les bons offices, parce qu'on est à face à une situation où il y a crise de confiance. Et donc, nous savons tous que le dialogue est convoqué, c'est à la suite du chaos observé à partir de 2011 à la suite de l'organisation des élections. Et c'est les élections aussi qui étaient bénéficiaires de ces élections. Donc je pense que les choses auxquelles aucune importance aujourd'hui si on convoquait les dialogues et mettre ça entre les mains des Congolais parce qu'on ne se fait pas confiance. Ça, c'est la première question. C'est le premier problème. Deuxième problème, moi, je pense que comment nous devons organiser ces élections? Quels sont les points qui doivent tirer sur l'agenda des élections? Si tu dis, c'est très bien suivi, comme l'ont dit mes prédécesseurs, les dialogues du chef de l'État, moi, je pense qu'il y a des points qui doivent être soumis à des discussions lorsqu'on convoque les dialogues sous prétexte de revoir les mots de scrutin. C'est là un truc directement qu'on doit réviser la Constitution, ce qui risque de fâcher le peuple congolais jusqu'à présent. Je pense que les Congolais tous voudraient voir en 2015 l'alternance au pouvoir, et nous sommes tous d'accord qu'il doit y avoir l'alternance. Donc, aujourd'hui, on commence à présenter des points tels que révision du mot de scrutin. Je pense que ce sont des points qui peuvent passer à la base les peuples congolais.
Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec le dernier auditeur, Fabien, qui est à Calémie. Fabien, bonjour. Fabien, vous êtes à Calémie, bonjour. Voilà, on a des soucis avec la ligne de Fabien. Je crois que la réalisation va nous aider
entrer en contact à nouveau avec Fabien pour recueillir également son point de vue. On revient à vous, Monsieur Moké Sanza, vice-président national à l'UDECO, l'Union pour le développement du Congo, après avoir suivi les uns les autres, donc écouter les points de vue des uns des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? C'est vrai, tout le monde est d'avis qu'il faut aller au dialogue, parce que c'est la voie royale pour sortir de la crise et sauver le processus électoral, mais il y a pas mal d'inquiétudes qui ont été évoquées par les uns et les autres, notamment la manière dont on a convoqué ces dialogues. Déjà, il y a en torse le fait que certains acteurs attendaient que ces dialogues soient convoqués par un facilitateur international.
Merci beaucoup, Gia. Je pense que nous devons réfléchir en homme responsable, pour ceux qui font la politique, n'est-ce pas, en homme politique responsable. Comme vous le savez, d'ailleurs, la communauté internationale s'était déjà prononcée là-dessus, elle avait dit que le problème qui touche aux élections, c'est un problème purement interne. Il y a eu le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU qui l'a dit, et puis d'autres, même des ambassadeurs, même le doyen du corps diplomatique, n'est-ce pas, l'avait dit aussi, que c'est un problème interne. La communauté internationale ne peut que appuyer, n'est-ce pas, accompagner. Mais la communauté internationale n'est pas là pour venir, n'est-ce pas, dire aux Congolais comment ils doivent se comporter, n'est-ce pas, pour tel ou tel forum qui doit avoir lieu chez eux, n'est-ce pas, ils ne doivent pas convoquer. Nous ne sommes pas un État, n'est-ce pas, en conflit avec un autre État, par exemple. Où il y a, parce qu'il y a des termes, n'est-ce pas, en politique, même dans le cadre de la vie internationale, il y a des termes, n'est-ce pas, qui sont utilisés, appropriés,
voilà.
Médiation, n'est-ce pas, facilitation, etc. Donc on ne peut pas parler de médiateur directement. Non, ici il s'agit d'un problème purement interne. Mais nous avons besoin justement de l'accompagnement. N'est-ce pas? Parce que, par exemple, la MONUSCO,
oui. Ça l'a dit,
oui, là, oui,
c'est un cas de problème majeur.
Justement, parce que, ouais, par exemple, la MONUSCO est là pour la stabilisation du Congo. Il nous accompagne pour qu'il y ait la stabilisation. Donc, en cas de problème, ces gens interviennent pour concilier un peu les points de vue. Mais ils ne sont pas là pour. Donc, quand le chef de l'État a convoqué, ça, d'ailleurs, c'est important parce qu'il doit prendre l'ordonnance. Les gens ont parlé de l'ordonnance.
Mais rapidement parce que
on a parlé de l'ordonnance. L'ordonnance est un acte juridique. Parce que nous sommes dans un État, nous ne sommes pas dans une boutique. Même les dépenses y afférentes.
Voilà.
Il faut un acte générateur.
Merci. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à messieurs Moké Sanza, vice-président national à l'UDECO, Union pour le développement du Congo. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce programme. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans la diffusion donc de l'émission spéciale qui s'est produite à Matadi. Prenez rendez-vous avec nous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bon, c'était le programme sur le tapis.